Bonsoir à vous, merci de nous rejoindre sur VO Afrique émettant de Washington. Jacques Aristide pour vous accompagner dans le monde aujourd'hui en ce vendredi 15 mars 2024. À la une de l'actualité ce soir. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko prédit une large victoire de son parti au premier tour en l'absence de fraude. En Guinée, des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre après une coupure d'électricité. La République démocratique du Congo rétablit la peine de mort, une décision vivement critiquée par les organisations de défense des droits humains. En Somalie, au moins 3 morts dans l'attaque d'un hôtel par les Chebabs à Mogadiscio. Et le président américain Joe Biden salue le bon discours du patron des sénateurs démocrates qui a réclamé des élections en Israël. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko a prédit aujourd'hui la large victoire de son second Bassirou Diomaye Faye dès le premier tour de la présidentielle du 24 mars si l'élection se déroule sans fraude. Si l'élection se déroule bien, je ne pense pas qu'on fera moins de 60%, a-t-il dit lors de sa première apparition devant les médias depuis des mois au lendemain de sa sortie de prison. Il a cependant appelé les Sénégalais à rester vigilants de tant qu'il y a des rumeurs de corruption qui circulent, dit-il. Quant à la Cour suprême sénégalaise, elle a rejeté ce même vendredi des demandes de suspension de décrets fixant la date du scrutin et la durée de la campagne. Alexandrine Rolognon.
Une éventuelle acceptation de ces demandes par la Cour suprême aurait remis en question le processus électoral, mais la Cour a déclaré les requêtes irrecevables. Les demandes avaient été introduites par des candidats disqualifiés à la présidence, dont Karim Ouad et des députés de leur camp. Hier, des milliers de Dakarois en liesse se sont pressés jusque tard dans la nuit pour célébrer la libération d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye. Les deux hommes ont bénéficié d'une loi d'amnistie adoptée la semaine passée à l'instigation du président Macky Sall. Le président cherche en effet à apaiser les tensions suite à l'échec de sa tentative de reporter les élections de 10 mois. Le rassemblement spontané autour des deux opposants est le plus important provoqué par aucun des 19 candidats depuis le lancement de la campagne le 9 mars dernier.
En Guinée, des heurts ont mis aux prises des manifestants et les forces de sécurité à Conakry hier soir, après une coupure d'électricité qui a plongé dans le noir une très grande partie de la capitale. Nanit Talani.
Les forces de sécurité ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants dans plusieurs quartiers, rapporte un témoin qui dit avoir entendu des tirs d'armes à feu. Dans un communiqué, la compagnie Électricité de Guinée explique que la panne a été causée par un incident sur un pylône à haute tension. Elle assure que les quartiers seront progressivement alimentés. 2 enfants de 8 et 14 ans ont été tués mardi par balle à Kindia, à 130 km à l'est de Conakry, lors de manifestations contre les coupures répétées d'électricité. Il y avait eu aussi 12 blessés, dont 5 membres des forces de l'ordre, avait rapporté un médecin de l'hôpital régional de Kindia. La Guinée, malgré des ressources minérales et naturelles considérables, subit des pénuries de carburant et des coupures d'électricité fréquentes. Le pays est également confronté à une sévère crise économique et sociale et à des tensions nourries par l'inflation et les pénuries.
En République démocratique du Congo, le gouvernement reprend les exécutions capitales, notamment contre les militaires accusés de trahison, alors que la région orientale du pays est en proie à l'avancée de la rébellion du M23. La décision lève le moratoire sur l'exécution de la peine de mort datée de 2003. Le mouvement Lucha est d'avis que la démarche ouvre un couloir à des exécutions sommaires dans le pays. En Somalie, 3 personnes ont été tuées et 27 blessées dans l'attaque menée durant 13 heures par des islamistes radicaux Chebab dans un hôtel de la capitale Mogadiscio. Dili Diku.
Parmi les 27 blessés figurent 18 civils, dont 3 parlementaires, a précisé le colonel Kassim Ahmed Roblé, quelques heures après l'annonce de la fin des opérations de police et de la mort des 5 assaillants. L'attaque, revendiquée par le groupe islamiste affilié à Al-Qaïda, a visé l'hôtel SIL, établissement fréquenté par des responsables gouvernementaux et des parlementaires, à proximité de l'enceinte ultra-sécurisée de Villa Somalia, qui abrite la présidence et les bureaux du Premier ministre. Selon des témoignages, un commando d'hommes armés s'est introduit dans l'hôtel jeudi vers 21h45 local après avoir endommagé le mur d'enceinte à l'explosif. Le SIL est une cible récurrente des Shabab. L'attaque, lancée jeudi, est au moins la cinquième depuis 2015. La dernière en date, en décembre 2019, a fait 5 morts. Il s'agit d'une attaque significative qui rompt avec l'impression de calme qui s'est développée à Mogadiscio ces derniers mois après des réformes sécuritaires, a estimé Omar Mahmoud, chercheur à International Crisis Group.
J'ajoute que l'ambassade américaine a dit condamner dans les termes les plus fermes cette attaque terroriste en Somalie. Elle rappelle que les États-Unis sont déterminés à soutenir les efforts somaliens pour vaincre les Shebab. Le gouvernement ivoirien a mis en place une cellule de crise pour rétablir l'Internet 24 heures après le début d'une panne majeure qui touche plusieurs pays africains sans donner d'indications précises sur sa durée. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme s'est déclaré horrifié par la récente vague d'enlèvements de masse commis par des hommes armés dans le nord-ouest du Nigeria. Volker Turk a appelé les autorités à briser le cycle de l'impunité en menant des enquêtes rapides, approfondies, impartiales.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden salue ce qu'il qualifie de bon discours prononcé hier par le chef des sénateurs démocrates Chuck Schumer, qui a réclamé la tenue d'élections en Israël, décrivant le premier ministre Benjamin Netanyahu comme obstacle pour la paix. Il a fait un bon discours et je pense qu'il a exprimé des préoccupations importantes qui ne sont pas seulement les siennes, mais qui sont partagées par de nombreux Américains, a dit le président démocrate à propos de cette intervention du sénateur, personnalité juive la plus haut placée du pouvoir législatif américain. D'autres réactions avec Yacouba Ouedraogo.
La coalition gouvernementale menée par Netanyahou ne correspond plus aux besoins d'Israël après le 7 octobre, date des débuts de la guerre avec le Hamas, a déclaré Chuck Schumer. Le chef de file des démocrates au Sénat a ajouté que le premier ministre Netanyahou s'est égaré, laissant sa survie politique passer avant l'intérêt supérieur d'Israël. Cette nouvelle sortie de Schumer intervient quelques jours après des propos du président Joe Biden, affirmant que Benjamin Netanyahou faisait plus de mal que de bien à Israël. Le parti du premier ministre israélien, le Likoud, a assuré que la politique de Netanyahou est soutenue par la grande majorité de la population israélienne. Israël est à un point critique après 5 mois de conflit, estime le chef de la majorité démocrate au Sénat, qui a aussi appelé à la démission du chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a qualifié ses propos de Schumer de grotesques et hypocrites. Israël mérite un allié qui agisse comme tel, dit-il.
Les Haïtiens attendent toujours la nomination d'un conseil présidentiel de transition après la démission du Premier ministre contesté Ariel Henry, dans l'espoir prudent que ces nouvelles autorités mettent le pays ravagé par les gangs sur le chemin de la stabilité. L'ONU indique qu'elle va mettre en place un pont aérien entre Haïti et la République dominicaine voisine pour permettre la fluidité de l'aide humanitaire. Les États-Unis ont de leur côté fait aujourd'hui part d'une aide humanitaire supplémentaire de 25 millions de dollars, en plus des 33 millions annoncés par le chef de la diplomatie Anthony Blinken en début de semaine. Ces fonds soutiendront notamment l'ONU et les ONG en matière d'aide alimentaire, de soins d'urgence et d'eau potable, selon l'USAID, l'agence américaine pour le développement international. Le président russe Vladimir Poutine jure que son pays répondra aux récents bombardements ukrainiens sur son territoire. Il condamne les incursions de combattants pro-Ukraine, une tentative de perturber, selon lui, la présidentielle qui doit le voir réélu en l'absence de candidats frontalement opposés à sa politique. Depuis ce matin, les Russes sont appelés aux urnes, tandis que ces derniers jours, les assauts terrestres et les frappes de drones et d'obus du côté russe de la frontière avec l'Ukraine se sont multipliés, faisant plusieurs morts et blessés d'après les autorités. Ce même vendredi, Kiev indique qu'au moins 16 personnes ont été tuées et près d'une soixantaine blessées dans l'une des pires attaques de missiles russes sur Odessa, grande ville portuaire du sud de l'Ukraine, déjà visée deux fois par ces derniers jours. Les pays du G7 ont mis en garde l'Iran aujourd'hui contre toute livraison de missiles balistiques à la Russie qui entraînerait de nouvelles sanctions importantes contre Téhéran, selon un communiqué commun. Voilà pour le journal. Sans plus tarder, la Minute Écho avec Nathalie Barge.
Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande mondiale de pétrole devrait augmenter plus fortement que prévu au premier trimestre 2024 à plus de 102 millions de barils par jour, notamment en raison d'un rallongement des trajets de navires qui contournent l'Afrique pour éviter les attaques des Houthis en mer Rouge et augmentent leur vitesse de croisière, augmentant ainsi la demande de carburant. Selon l'AIE, cela s'explique aussi par une forte demande américaine. La Somalie a conclu un accord avec des créanciers internationaux pour annuler 1,2 milliard de dollars de dettes auxquelles doivent s'ajouter 815 millions d'annulations de dettes bilatérales selon le Club de Paris. L'accord fait suite à l'approbation par le FMI et la Banque mondiale en décembre d'un plan de réduction d'endettement de 4,5 milliards de dollars. La dette extérieure de la Somalie est passée de 64% de son produit intérieur brut en 2018 à moins de 6%. Le forum Cap Green sera organisé à Abidjan les 16 et 17 avril au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Le thème 2024 est l'accélération des mécanismes de financement et d'investissement vert. La première mesure du plan stratégique 2023-2026 met l'accent sur la contribution de l'organisation patronale à la transformation structurelle de l'économie. La cinquième mesure vise notamment à favoriser l'adoption de modèles d'affaires verts et responsables.
Et maintenant, la page sportive avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Nous commençons par les nouvelles de la Basketball Africa League.
Pas de match aujourd'hui, il y avait un seul match au programme hier à la Sandbet Arena de Pretoria en Afrique du Sud, où se jouent les rencontres de la conférence à Kalahari. Les Marocains de Fus de Rabat et les Angolais de Petro, déjà qualifiés, se sont disputés la première place, qui reste jusqu'ici la propriété de Fus, malgré sa défaite 83-89 devant Petro de Luanda. Les deux équipes comptent 2 victoires en 3 matchs chacune. Les rencontres de cette conférence Kalahari prennent fin ce dimanche avec le match Cape Town Tigers-Fus de Rabat. Mais bien avant, demain samedi, les Sud-Africains feront face aux Angolais de Petro pour espérer accrocher leur première victoire dans cette conférence à Kalahari.
Ici en NBA, les Cadors ont fait valoir leur statut.
Meilleure équipe de la NBA, 52 victoires pour 14 défaites. Boston a montré sa supériorité face à un des prétendants au titre, Phoenix, battu 127-112. 46e victoire de la saison pour Oklahoma City, leader à l'Ouest. Le Thunder s'est imposé devant Dallas, 126-119. Milwaukee, deuxième à l'Est, a su se mobiliser pour faire la différence face à Philadelphie, 114-105. Toujours privé de Joel Embiid, blessé au genou, les Sixers encaissent leur 5e défaite sur les 6 derniers matchs. Les Clippers de Los Angeles ont renoué avec le succès sur le parquet des Bulls de Chicago, 111-126.
Football, on connaît les oppositions des quarts de finale de la Ligue des Champions en Europe.
La grande affiche va opposer les deux derniers vainqueurs, Manchester City en 2023 et le Real Madrid en 2022. C'est la 4e fois en 5 saisons que le Real et City s'affrontent dans la phase éliminatoire de la Ligue des Champions. Les Anglais se sont imposés 2 fois sur 3. Le PSG lui a hérité du FC Barcelone, l'ancien club de son entraîneur Luis Enrique, et bourreau lors de la fameuse remontade en 2017 en quart de finale de cette même Ligue des Champions. L'autre affiche opposera le Bayern et Arsenal. Les Munichois ont déjà éliminé 2 fois les Gunners en 8e de finale de la Ligue des Champions en 2005 et en 2013. À suivre aussi Atlético Madrid-Borussia Dortmund. Les quarts de finale aller auront lieu les 9 et 10 avril, une semaine avant les retours, les 16 et 17 avril.
Victor Boniface est proche d'un retour avec son club de Leverkusen.
L'attaquant nigérien, qui n'a plus joué depuis décembre à cause d'une blessure, va bientôt retrouver le terrain. selon Xavi Alonso, entraîneur du Bayern Leverkusen, invaincu cette saison et en route vers son premier titre de champion d'Allemagne. Victor Boniface s'est blessé aux adducteurs lors de la préparation de la CAN avec le Nigeria en janvier. Son retour, prévu initialement en avril, pourrait intervenir précocement en mars, selon Xavi Alonso. Avec 10 points d'avance sur le Bayern Munich à 9 journées de la fin, Leverkusen est en bonne voie pour remporter pour la première fois la Bundesliga. L'équipe d'Alonso va aussi jouer contre West Ham en quart de finale de Ligue Europa et contre Düsseldorf en demi-finale de Coupe d'Allemagne.
Merci bien, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, en ce vendredi 15 mars 2024. Jacques Aristide toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Au Burkina Faso, les autorités indiquent avoir détecté la semaine dernière un foyer de grippe aviaire chez un éleveur de dindons à Ouagadougou. Le gouvernement affirme que le foyer est maîtrisé et a donc été empêché de se propager. Mais le pays connaît pratiquement tous les ans des cas de grippe aviaire. De Ouagadougou, le reportage de notre correspondant Lamine Traoré.
Près de 700 volailles ont déjà été tuées. Il s'agit pour l'heure d'un foyer de grippe aviaire dans l'arrondissement 5 de Ouagadougou. L'annonce a été faite la semaine dernière par le gouvernement. Amadou Diko est le ministre délégué chargé des ressources animales.
Le 1er mars 2024, nos équipes ont détecté un cas de grippe aviaire portant sur un élevage de dindons. Le foyer a également été confirmé par le laboratoire national de référence grippe et rapidement des mesures ont été prises pour circoncire le foyer. Notamment, il s'agit des mesures d'abattage sanitaire et des mesures de surveillance dans un rayon d'un kilomètre autour du foyer afin de détecter de nouveaux cas.
La grippe aviaire n'est pas une nouveauté au Burkina. Tassere Ouidraoué est un éleveur de volailles à Ouagadougou. Il se souvient, il y a un an, il a perdu 3500 têtes, des poulets de chair et des poulets améliorés. Il continue de ressentir la perte car l'éleveur n'a reçu aucun accompagnement des autorités.
En 3 jours, il n'y a plus de sujets dans les bâtiments. Donc, l'impact est énorme. Financièrement, ça se chiffre à plus de 5 millions. Il n'y avait pas vraiment de solution. Voilà, lorsque ça se déclare, il faut aussi noter que les services techniques aussi nous aident pas dans ce sens parce que pour bénéficier de l'indemnisation, déjà, il faut que ce soit eux-mêmes qui viennent pour faire l'abattage. Le problème, c'est que vous les infos, allez les informer pour qu'ils viennent, ça prend plus de 3 jours. Alors que lorsque la grippe aviaire se déclare dans le bâtiment, en 3 jours, tout est fini. Donc ils viendront toujours trouver qu'il n'y a plus rien.
Sibiri Justin Zoma, bien qu'enseignant, l'élevage demeure sa passion. Il détient sa ferme dans une commune de Boromo à près de 200 km de la capitale. Il a aussi perdu des milliers de têtes.
On allait à 500 têtes de pondeuse, après on allait à 1100, de 1100 on allait à 2000. De 2000, on a pris 2500, un coup ajouté. Donc, ça faisait 4000, avec 4500 pondeuses comme ça. Donc, tout d'un coup, on s'est vu au paradis. Paf, la grippe avait revenu. Quand c'est venu, on ne maîtrisait pas l'affaire. Ça a pris la maison de 2500. Là-bas, c'était des jeunes pondeuses. Les vieilles, là, nous, on avait déjà réformé pour pouvoir appuyer la nutrition des 2500, là. Et quand ça a pris, le mandat est venu prendre ça. On a signalé aux vétérinaires, voilà, aux autorités, voilà, communales, là. Ils vont voir jusqu'aujourd'hui, là, ce n'est pas simple.
Pour la présente alerte, le gouvernement appelle les populations à la vigilance et les agriculteurs à redoubler de vigilance en matière de mesures de biosécurité afin de pouvoir circonscrire l'unique foyer pour l'instant. Le gouvernement dit aussi renforcer la surveillance. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Nous vous le disions un peu plus tôt, la République démocratique du Congo vient de rétablir la peine de mort. Elle vise les auteurs de banditisme urbain entraînant mort d'hommes, mais aussi et surtout les militaires accusés de trahison, alors que le pays est confronté depuis 2 ans à une offensive des rebelles du M23 qui se sont emparés de larges pans de la province du Nord Kivu. La décision a aussitôt été vivement critiquée par les organisations de défense des droits humains. Pour une réaction, Antoine Roger Bolamba a joint maître Liévin Gondji, fondateur de l'ONG Culture pour la paix et la justice et membre de la coalition d'Afrique contre la peine de mort. Il est basé à Kinshasa.
Mais elle fait totalement reculer les choses. Et je suis terriblement étonné que les juristes et les politiciens ne puissent pas avoir la mémoire. En 2003, dans ce pays, on a condamné les gens pour l'assassinat du feu Laurent-Désiré Kabila, des rêves de mémoire, et les gens étaient condamnés à mort. Et nous nous sommes mis devant les autorités pour dire qu'il est hors de question d'exécuter des personnes condamnées à mort parce qu'on n'a pas eu suffisamment d'éléments des enquêtes et on n'est pas très certain de l'indépendance des juges pour être certain à 100% que c'est eux qui ont été à la base de ces coups et que tous les complices et les commanditaires étaient connus. Nous avons sauvé la vie de plusieurs personnes, dont l'une d'elles vient d'être récupérée par le pouvoir actuel pour défendre la République du côté du Katanga. Alors aujourd'hui, on décide de tuer les gens. Avec quelle justice lorsque le président de la République lui-même dit qu'il ne dort pas lorsqu'il pense à ce que la justice fait. S'il ne dort pas pour des faits qu'on peut récupérer, qu'est-ce qu'il fera lorsqu'on va tuer les gens et qu'il va apprendre après que ces gens-là étaient poursuivis gratuitement?
Selon la circulaire de Madame la ministre, il semble que c'est pour lutter contre le terrorisme ou bien contre les traîtres de la République, surtout de la partie est de la République, mais aussi pour lutter contre les banditismes urbains à Kinshasa et partout à travers le pays. Vous êtes d'accord avec ça?
Mais pas du tout, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Vous étiez encore à Kinshasa, Antoine Roger, lorsque on a suspendu le moratoire qui était mis en place par le président Laurent-Désiré Kabila en septembre 2022. On nous avait dit la même chose, qu'il y avait la récrudescence du banditisme. Or, depuis janvier 2003, on n'a plus jamais exécuté les condamnés à mort. Est-ce que c'est pour autant que la criminalité a augmenté? Mais même avant ça, avant 2003, la peine de mort était exécutée. Est-ce que le nombre, la criminalité, est-ce que la guerre avait cessé à l'aise? Non. D'ailleurs, beaucoup de politiciens aujourd'hui, mais ils étaient à l'époque dans les rébellions, ils ont simplement changé de camp après les accords, mais avant ils étaient contre la République, donc des traîtres. Alors traître aujourd'hui, c'est être devenu défenseur de la République. Et traître d'hier, de penser de la République aujourd'hui, peut devenir traître demain. Pourquoi alors on peut penser que la solution, c'est de mettre la vie de quelqu'un à mort pour régler les problèmes politiques?
Maître Ali Evingondji, fondateur de l'ONG Culture pour la paix et la justice et membre de la coalition d'Afrique contre la peine de mort, était en ligne de la capitale congolaise.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Les autorités du Zimbabwe, premier producteur de tabac en Afrique, attendent que la récolte de cette année donne un coup de pouce à l'économie du pays qui est en difficulté. Cependant, la demande n'est plus aussi forte que par le passé, au moment où les appels se multiplient pour que le Zimbabwe abandonne la culture du tabac en raison de problèmes de santé. C'est un reportage de Columbus Mavunga depuis Harare. Le récit est de Thierry Kaoré.
Les ventes aux enchères de tabac au Zimbabwe ont commencé la semaine dernière. Le gouvernement a déclaré qu'en raison de la sécheresse, les ventes de cette année n'atteindront pas le record de 1,2 milliard de dollars d'exportation atteint l'année dernière. Le vice-président Constantino Chiwenga a indiqué que le tabac était au cœur de la relance de l'économie du Zimbabwe et que sa production devrait augmenter au cours de la prochaine saison de culture, car les météorologues prévoient des pluies plus abondantes.
Le gouvernement considère l'industrie du tabac comme un secteur qui a un grand potentiel de croissance et d'augmentation des exportations étrangères de notre pays. Oui, nous avons les autres secteurs, les mines, les minerais, mais l'agriculture, avec le tabac en tête, joue un rôle majeur dans nos recettes d'exportation.
Kessina Martyr, une productrice de tabac, affirme qu'elle veut aider le gouvernement à atteindre ses objectifs de développement des classes moyennes et supérieures du Zimbabwe.
J'aime cultiver le tabac car cela me permet d'obtenir beaucoup de devises étrangères, d'acheter des choses et de me prendre en charge. Si vous cultivez du maïs ou d'autres produits, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, contrairement à la culture du tabac.
La plupart des agriculteurs zimbabwéens veulent être payés en devises étrangères pour leurs récoltes à cause de la volatilité de la monnaie locale du pays. Cependant, des agences des Nations Unies comme l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture exhortent les agriculteurs à abandonner la culture du tabac en raison des risques pour la santé tels que le cancer du poumon lié au tabagisme. Conséquence, la demande de tabac a chuté au cours des 25 dernières années, selon l'OMS, mais le gouvernement zimbabwéen souhaite que les agriculteurs restent fidèles à la culture du tabac. Patrick Devenish travaille pour l'Office de commercialisation des industries du tabac du Zimbabwe.
Le tabac n'est pas le seul produit nocif pour les gens. Le sucre est nocif, l'alcool est nocif, etc. Mais les gens continuent à les consommer.
Peter Kambara, un économiste agricole indépendant basé à Harare, estime que la production de chambre pourrait être une bonne alternative au tabac.
Les gens disent que le tabac séché à la flamme a des effets nocifs sur la santé des gens. Les produits de chambre industriels sont en fait recherchés dans le monde entier. Ils sont acquis à des fins thérapeutiques. Nous pensons donc qu'il s'agit d'une bonne alternative.
La plupart des agriculteurs zimbabwéens n'ont pas encore essayé la production de chambre, estimant que les coûts de démarrage sont hors de leur portée. Cela indique qu'il faudra peut-être attendre longtemps avant que les Zimbabwéens ne se séparent de la culture du tabac.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
L'industrie cinématographique nigériane, souvent appelée Nollywood, est le deuxième plus grand producteur de films au monde en termes de volume. Et elle progresse tant sur le plan artistique que celui de la popularité au box-office. D'Abuja, Timothy Obiezu nous en dit davantage dans ce reportage relaté par Jenny Niwa.
Le cinéaste nigérian Podcast met la dernière main à son plus récent film, Just the Two of Us. La sortie du projet est prévue pour avril et Cast espère qu'il aura un grand succès.
L'intrigue était principalement centrée sur un couple et sur la façon dont ils ont pu faire leur parcours avec des hauts et des bas, en essayant surtout d'illustrer le type de lutte qui peut survenir dans les relations amoureuses.
Ancien étudiant en psychologie, Cast s'est lancé dans une carrière cinématographique en 2019. En termes de production, l'industrie cinématographique nigériane, ou Nollywood, est la deuxième au monde derrière Bollywood en Inde et produit plus d'un millier de films par an. En décembre, le film nigérian A Tribe Called Judah est devenu le premier film à gagner 1 milliard de naira, l'équivalent d'environ 1,1 million de dollars au box-office national. Olumide Ouro, membre de l'équipe de Tribu appelée Judah, explique que le film qui raconte l'histoire d'une mère célibataire et de ses 5 fils qui luttent pour joindre les deux bouts est une histoire nigériane courante.
Je pense que tous ceux qui ont vu le film ont vu un peu d'eux-mêmes en termes de volonté de faire tout ce qu'il faut faire pour que leur mère soit heureuse et à l'aise.
Cast affirme que le succès du film Lion's Heart, réalisé par Geneviève Nagy, qui est devenu le premier film nigérian à être diffusé sur Netflix en 2019, a également inspiré les cinéastes.
Nous n'avions en fait pas de moyens de distribution de ce type, mais depuis que Geneviève est arrivée et a fait Lion's Heart, et qu'elle a ouvert la porte à Netflix et à d'autres plateformes de streaming, cela a juste permis aux gens de se rendre compte des possibilités.
Mais les cinéastes affirment que l'accès au financement reste un défi et souhaitent que le gouvernement nigérian et les institutions financières investissent davantage dans l'industrie cinématographique.
Il y a eu des améliorations dans le domaine de la cinématographie, de l'éclairage, de la conception du son. Contrairement à ce qui se passait auparavant quand on prenait la caméra, on avait une histoire, on pointait et on tournait.
Le résultat et la croissance du marché sont de bonnes nouvelles pour les cinéastes comme Paul Cast et les millions de Nigérians qui attendent de voir le prochain grand film sur leur écran.
Et voilà, Le Monde Aujourd'hui, édition du vendredi 15 mars 2024, prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Lionel Gaïma. Chers amis fidèles de la VOA, je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous ce soir. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Toute l'équipe de VOA Afrique se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée et un merveilleux week-end. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt. Au revoir. Take care.